Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La Bible, une histoire d'homme, l'histoire d'une domination patriarcale, voilà le genre de préjugés qui ont la vie dure à propos des Écritures, tant dans le grand public que parfois chez les chrétiens. Et pourtant, des femmes dans la Bible, il y en a, et non des moindres. Des femmes dans la Bible, on en rencontre notamment au bord d'un puits, lieu clé de la vie de l'époque biblique, lieu où hommes et femmes se croisent. Bref, toute une histoire d'amour évidemment. Les femmes dans la Bible première. Cette émission Vivante Église, ce matin, en ce lundi matin, les femmes dans la Bible première, c'est donc une de nos séries annuelles qui démarre enfin à cause du confinement. Évidemment, il y a quelques modifications. Les femmes dans la Bible. Alors pour cette première émission, nous sommes avec vous, Sandrine Canéry. Vous êtes bibliste orthodoxe, enseignante à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris et auteure d'un ouvrage, Rebecca, Rencontre de Rebecca au Puits, paru aux éditions du Cerf. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait un détour par nos studios. Alors, je le dis, cette série d'émissions est en partenariat avec la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. C'est une série de conférences bibliques qui ont pour thème les femmes dans la Bible, d'où le titre simple de cette émission. Alors, vous étiez de passage à Toulouse, c'était mardi dernier, mardi 15 décembre, pour une conférence sur un titre un peu plus précis, quelle rencontre les femmes font-elles auprès d'un puits. Alors, avant qu'on parle de puits et d'amour, d'une certaine manière, puisque c'est finalement la première émission que l'on fait, puisque le confinement nous a un peu bousculé sur ce sujet. J'aimerais qu'on commence par parler de vous. Donc, Sandrine Canéry, vous êtes donc bibliste et orthodoxe. Alors, vous allez être un peu notre bibliste pour les nuls. Comment on devient bibliste orthodoxe? Comment on devient orthodoxe? Ça, c'est plus facile à répondre comme question. Comment devient-on bibliste? Quel a été un peu votre parcours?
Alors moi, mon parcours, j'ai fait une démarche de rencontre du Christ personnelle. Je n'ai pas reçu dans ma famille, comme dans beaucoup de familles chrétiennes, la foi au berceau, si je puis dire. Voilà, même si j'étais baptisée, mais bon, c'était à peu près tout. Et donc, ma démarche est personnelle. Et donc, j'ai choisi, moi, à l'âge de 21 ans, d'entrer dans l'Église. Et donc, j'ai choisi l'Église orthodoxe assez rapidement, après un petit détour. Et j'ai surtout choisi d'essayer de comprendre la Bible, en fait, parce que le premier prêtre que j'ai rencontré, il m'a dit, pendant l'Avent, il m'a dit juste, donc on est vraiment dans la période juste avant Noël, il m'a dit, il faut lire le prophète Isaïe, parce qu'on est dans l'Avent, on est dans la période avant Noël, donc lisez le prophète Isaïe. Donc j'ai commencé à lire, et je ne comprenais strictement rien, mais absolument pas un mot. Je lisais en français à l'époque. Je ne lisais ni en hébreu ni en grec, mais en français. Je ne comprenais rien. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Je lis en français, je ne comprends pas. Donc, il va falloir que je commence à travailler la question. Et au lieu de me décourager de fermer la Bible, comme beaucoup de personnes font, je me suis dit, bon, maintenant, je vais aller me renseigner. Et donc, j'ai suivi des cours. Et la première année de cours, j'ai suivi 4 fois, 1h30 par semaine de cours dans l'Ancien Nouveau Testament. Et là, j'ai plongé complètement. Et ça a duré comme ça 3, 4, 5 ans. Et je suis tombée sur quelqu'un d'exceptionnel qui m'a complètement convertie à la lecture de la Bible, et je me suis passionnée pour la Bible.
Alors, ça dure, hein, puisque vous êtes toujours en thèse, si j'ai bien compris.
J'ai fini ma thèse.
D'accord, oui, parce que le livre est sorti il y a quelques temps. Alors, donc vous êtes bibliste orthodoxe. Est-ce que vous pouvez dire un mot peut-être de ce que vous enseignez à l'Institut Saint-Serge, et puis de l'Institut Saint-Serge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas.
Voilà. Alors, j'enseigne ce qu'on appelle l'exégèse patristique. Alors, deux mots qui semblent un peu barbares, donc on va les expliquer. L'exégèse, c'est l'étude des textes, exégésis, comme on dit en grec. Donc, faire sortir du sens du texte. Et patristique, c'est l'étude des pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers chrétiens. Bon, beaucoup d'entre eux sont évêques, la plupart sont des saints, bon, pas tous, mais la plupart. Comment, en fait, je me suis intéressée assez rapidement. Lire la Bible est une chose, on peut la lire comme ça chez soi, mais recevoir l'interprétation de l'Église est une deuxième chose, voilà, qui est très importante, à mon avis. Et je me suis passionnée sur la manière dont les premiers chrétiens, et donc les premiers responsables d'Église, que sont ces évêques, je ne sais pas moi, Ignace d'Antioche, Basile le Grand, Jean Chrysostome, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, enfin tous ces grands qu'on appelle les pères de l'Église, comment ils se sont passionnés eux aussi pour le texte biblique, qui est la révélation. Dieu se révèle dans ce texte, donc c'est quand même fondamental. Si Dieu se révèle dans cette parole, il faut quand même la comprendre. Et comment on la comprend? Donc, eux nous balisent le chemin, ils nous mettent un peu des balises et donc ils nous expliquent. Et je me suis passionnée sur la manière dont, la manière dont ils nous expliquent la Bible. Et du coup, j'ai intégré, si vous voulez, leur façon d'expliquer et j'essaie de retransmettre ça aux étudiants. Voilà.
Alors, nos étudiants, les étudiants aujourd'hui, c'est nous. Vous allez nous aider donc à plonger dans les Écritures. Vous m'avez fait suivre, entre autres, donc un livre, en tout cas le titre d'un livre, L'art du récit biblique d'un certain Robert Alter. C'est, semble-t-il, un livre important. Je lis une critique dans la revue Études. L'ouvrage de Alter devrait marquer une étape dans l'intelligence moderne de l'écriture, rien que ça. À le lire, donc il rappelle évidemment que la Bible hébraïque est un chef-d'œuvre de la littérature, s'il fallait le prouver, et qu'il y a à l'intérieur de cette manière d'écrire la Bible, la Bible est écrite d'une certaine manière et il y aurait en fait comme des ressorts narratifs un peu déguisés. Alors j'en cite certains, la centralité du dialogue, l'art de la variation dans la répétition, l'usage des scènes types ou le recours aux sources distinctes dans la multiplication des points de vue. Alors celui-là c'est un peu compliqué, la réserve du narrateur omniscient, on dirait c'est pas plus simple. Et qu'est-ce qu'il veut entendre par ça, l'art du récit biblique, par cela Robert Alter?
Alors ce qui est très important de comprendre dans la Bible, et je pense que tant qu'on n'a pas compris ça en Nantes, on ne peut pas entrer dans ce chef-d'œuvre, comme vous dites, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est que... Avant d'être mis par écrit, c'est raconté. Pendant des siècles, on se raconte. Et c'est ça que j'ai reçu, moi, il y a 40 ans.
C'est d'abord une tradition orale.
C'est une tradition orale. Et quand on raconte, imaginez, je vous donne un exemple, vous allez mieux comprendre. Imaginez un grand-père qui explique à ses petits-enfants, ou peut-être même à ses arrière-petits-enfants, comment il a rencontré sa femme et comment ses épousailles se sont faites et comment il a mis au monde des enfants, puis après les petits-enfants, etc. Et toute une histoire, toute une généalogie, toute une histoire de famille. Et les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants qui entendent cette histoire, ils l'entendent d'une manière qui est enrichie par l'histoire même du grand-père qui n'est pas le lendemain de son mariage, mais qui est 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard. Et donc il y a tout cet enrichissement de l'histoire par la vie. Et c'est ça la Bible. La Bible est une expérience d'un peuple qui se communique de père en fils et de père en fils, de génération en génération durant des siècles, cette expérience divine. Dieu se révèle dans ce peuple et on le raconte. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Abraham, Isaac, etc. Comment se sont rencontrés les parents, les grands-parents et comment un peuple se construit? Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Donc c'est un vrai récit, c'est l'art du récit.
Mais on a l'habitude de dire que en fait, la tradition, c'est deux choses. C'est à la fois l'écriture et justement le commentaire des écritures, enfin toute la tradition on va dire intellectuelle, théologique et autres, donc entre autres avec les pères de l'Église. Mais on a l'impression qu'il y a une troisième tradition, ça serait en fait l'art de raconter cette histoire, non?
Alors, l'art de raconter, non, elle fait partie de la première tradition, c'est-à-dire elle fait partie du texte. C'est-à-dire, on raconte et à un moment donné, on le met par écrit. Et c'est le texte que nous avons sous les yeux. Mais ça fait partie du texte, cet art du récit. C'est-à-dire, c'est très, très bien agencé. Il y a des rebondissements, il y a des scènes types qui se reproduisent un petit peu différemment. Pourquoi? Il y a des passages qui se combinent alors qu'ils sont à différents chapitres dans le même corpus biblique, etc., etc. Donc il y a tout un art du récit et puis il y a des rapports entre des différents livres qui sont écrits à 500 ans de distance, on fait des liens, enfin c'est passionnant quoi, c'est un vrai jeu de piste en fait, c'est un vrai jeu de piste.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple? En tout cas il en est donné donc par Robert Alter, la naissance d'un héros, l'annonce de la naissance d'un héros à une femme, le testament d'un héros à l'approche de la mort, ou alors la rencontre d'une épouse au bord d'un puits. Et puis vous, ça sera aussi une histoire de puits. Qu'est-ce que vous auriez comme récit comme ça?
Alors par exemple, Sarah, l'annonce à Sarah. Sarah est stérile. Donc Sarah, c'est l'épouse d'Abraham. C'est la première des matriarches, Abraham étant le premier des patriarches. Donc Abraham reçoit trois anges ou trois hommes. Là, on peut aussi réfléchir longuement sur qui sont ces trois personnages. Et l'un des trois annonce à Abraham, ta femme aura un fils, tu auras un fils. Voilà. Et ce fils, qui sera? Ce sera Isaac, alors qu'elle est stérile, qu'elle a 90 ans. Donc, vous imaginez qu'elle rit, quoi. Elle rit en disant, mais vous me racontez, c'est pas des bêtises, mais elle peut pas le croire. Voilà. Et cette annonce est une annonce divine. C'est une annonce divine. Et elle aura un fils. Et effectivement, elle va concevoir.
Et alors, en quoi est-ce une scène type? C'est que c'est ce type de scène, on la retrouve au long des Écritures.
Ce type de scène, on peut la retrouver à d'autres moments.
C'est comme une préfiguration presque de l'Annonciation, c'est ça?
Voilà, on peut dire ça. Absolument. On peut dire ça. Tout à fait.
Alors, il y a une autre scène type dont vous allez nous parler et développer quelques exemples. C'est donc la rencontre donc, d'une épouse au bord d'un puits. Expliquez-nous peut-être les différents points de cet épisode type qui se répète dans la Bible.
Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemples de puits dans la Bible, aussi étonnant que ça puisse paraître, alors qu'il n'y a, dans cette antiquité, dans ce monde antique, il n'y a pas d'autre solution que de s'abreuver au puits, puisqu'on n'a que ça, on n'a pas l'eau courante à l'époque. Et c'est très étonnant, il y a très peu de scènes près du puits, assez peu. Voilà. Et parmi ces scènes où il y a des scènes de Isaac qui voit que les Philistins ont bouché les puits que les serviteurs d'Abraham avaient fait, donc il faut qu'ils redébouchent les puits pour avoir de l'eau. Enfin bon, il y a un peu des querelles autour des puits bouchés ou débouchés. Bon, ça existe parce que entre tribus ou entre voilà, on est un peu, parfois on peut se disputer dans la Bible. Il y a pas mal de disputes dans la Bible. Il y a quelques guerres d'ailleurs. Et puis il y a les femmes qui vont au puits chercher de l'eau. Voilà. Et ça, c'est très courant. Je veux dire, tous ceux qui nous écoutent connaissent très certainement, ou la plupart d'entre eux connaissent très certainement la Samaritaine. La Samaritaine, elle va chercher de l'eau au puits. C'est logique. On va toujours chercher de l'eau parce qu'il faut le ramener à la maison et on s'en sert pour les besoins domestiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il se passe quand une femme va chercher de l'eau au puits? Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour du puits? Est-ce qu'il y a des troupeaux qui boivent au puits, etc.
Alors, vous, la scène type plus particulière dans laquelle vous allez nous faire rentrer, et puis après, on prendra des exemples. On parcourra, on lira pas in extenso les passages bibliques, hein, mais en tout cas, vous allez nous prendre par la main. C'est un moment où on se rencontre au bord du puits et où on découvre l'amour, ou alors on y vient chercher une épouse, c'est ça?
On vient chercher une épouse, voilà. On vient y chercher. La plupart du temps, on vient y chercher une épouse, ou en tout cas, il y a une attente. Il y a une attente. Et la première scène, c'est le chapitre 24 du livre de la Genèse. Donc, on est vraiment au début de la Bible. Le chapitre 24, c'est intentionnel. Hein. Abraham envoie son serviteur pour chercher une épouse pour son fils Isaac. Donc, c'est intentionnel. Il sait très clair. Tu vas me chercher une épouse pour mon fils. Et donc, qu'est-ce que fait le serviteur? On pourrait dire il va aller frapper aux portes. Eh bien non, il s'installe près du puits et il attend.
Et alors, on va lire juste en teasing de cette partie suivante. Donc, ce serviteur, en l'occurrence, c'est Naram Anaharim, c'est comme ça qu'on
alors,
dit.
Alors, Naram Anaharim, c'est le lieu. C'est
ah, pardon.
Le lieu. Le serviteur, il n'a pas de nom ici dans la Bible,
oui, pardon,
mais tout le monde connaît son nom, c'est Eliezer. Donc ça fait partie de la tradition.
Et alors, ce qu'on peut lire, c'est peut-être, là, il se dit, la jeune fille à qui je dirai, incline ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois et j'abreuverai aussi tes chameaux, ce sera elle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, donc il parle pour le fils d'Abraham, pour qui il vient chercher une épouse, et je connaîtrai à cela que tu as montré ta bienveillance pour mon maître. Allez, je vous propose, on fait une première pause, et puis après on va le parcourir, ce passage, donc vous allez nous parler, en l'occurrence, de Rebecca. Ça tombe bien, puisque vous avez écrit un livre intitulé « Rencontre de Rebecca » au puits, paru aux éditions du Cerf, dans la collection « La Bible et ses traditions ».
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les femmes dans la Bible, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce lundi de semaine de Noël, avec Sandrine Canéry, biblistes orthodoxes, enseignante à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, et qui vient nous parler donc des femmes dans la Bible suite à une conférence qu'elle a donnée. C'est donc une série de conférences, les conférences bibliques données par la faculté de théologie. Et votre conférence, c'était « Quelles rencontres les femmes font-elles auprès d'un puits ?» Alors vous nous introduisez, on va dire, à la lecture de la Bible. On en a bien besoin parce que souvent, elle doit rester, trop souvent sur les étagères de nos maisons parce qu'on se sent un peu intimidé. Donc là, on va lire donc l'histoire de la rencontre d'un serviteur. Alors vous dites, comment il s'appelle le serviteur ? Serviteur
Eliezer.
D'Abraham.
Voilà. Eliezer.
Serviteur d'Abraham. Abraham envoie son serviteur Eliezer dans son pays d'origine pour trouver une épouse à son fils Isaac. C'est donc Genèse 24, 10-61. Alors, on ne va pas tout lire. Je vais vous laisser peut-être lire un passage pour qui situe l'action. Mmh. Donc, je le disais, il prie le Dieu d'Abraham avant d'arriver. Et là, que se passe-t-il ?
Eh bien, il demande, comme il est au bord du puits et qu'il sait qu'il doit absolument rencontrer une épouse pour le fils de son maître, il demande un signe, en fait, à Dieu. Il dit, cette épouse, comme nous venons de le lire, cette épouse...
Vous pouvez relire le passage, voilà, peut-être, parce que...
Comment je vais la rencontrer ? Comment je vais la reconnaître ? Parce que peut-être il y a 10 femmes qui vont venir. Donc, comment je vais la reconnaître ? Et voilà ce qu'il dit. La jeune fille à qui je dirai « Incline donc ta cruche que je boive » et qui répondra « Bois et j'abreuverai aussi tes chameaux », ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac et je connaîtrai, voilà ça c'est très important, je connaîtrai à cela que tu as montré la bienveillance pour mon maître. Voilà. Donc en fait il demande à Dieu un signe précis et d'un air de dire « Moi parmi toutes ces femmes je ne vais pas savoir laquelle tu destines ». Donc ça veut dire aussi que le serviteur a conscience que c'est premièrement pas n'importe quelle femme et deuxièmement qu'il y a un projet divin. Il y a un projet divin sur Isaac et Dieu sait parfaitement la femme dont Isaac a besoin. Donc ça, c'est fondamental. Rien qu'en lisant cette phrase, on devrait déjà découvrir ça dans le texte.
Alors, il y a une particularité, puisque vous allez nous parler de... Enfin, vous dites que c'est une sept type dans les Écritures, c'est que là, c'est un serviteur qui est envoyé.
Voilà.
C'est pas, ni le père, ni le fils.
Voilà, c'est pas Isaac lui-même. Alors, c'est le seul cas. C'est la seule fois où ce n'est pas Isaac lui-même en personne, c'est-à-dire le futur époux, qui est en personne là. C'est la seule fois de toutes les scènes types. Pourquoi ? Alors là, c'est très intéressant, parce que Isaac ne quittera jamais la terre promise, parce que là, on est en dehors de la terre promise. Et Isaac est le modèle, j'ai envie de dire, de l'hébreu qui est né en terre promise et qui restera toute sa vie sans jamais la quitter. Et ça, c'est important parce que c'est, en tout cas pour la tradition juive, c'est important parce que c'est un modèle. Voilà. Il faut vivre en terre promise sans jamais la quitter. Voilà, c'est cette idée.
Alors si on continue, il n'avait pas fini de parler, donc ce serviteur envoyé par Abraham, donc pour rappel, pour trouver une épouse à Isaac, toujours la suite de Genèse 24, il n'avait pas fini de parler que sortait Rebecca, qui était fille de Bethuel, fille de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. Elle avait sa cruche sur l'épaule, la jeune fille était très belle, elle était vierge, aucun homme ne l'avait approchée. Et il s'ensuit qu'elle lui dit exactement ce qu'il attendait.
Exactement. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut préciser à propos de ce début de rencontre, hormis le fait que ce serviteur est, on a l'impression, un peu stupéfait par ce qui se passe ?
Alors, ce qu'on peut préciser, premièrement, c'est que déjà le texte, lui, nous explique qu'il y a un rapport de parenté, hein, puisque elle est fille de quelqu'un qui est frère d'Abraham. Donc, il y a une parenté. Hein, et c'est le but, parce qu'Abraham avait demandé au serviteur, va dans ma parenté.
Donc déjà, ça commence bien, parce qu'il aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre.
Voilà. Hein, bon. Et ensuite, elle était belle et aucun homme ne l'avait connue. Donc, vierge et aucun homme ne l'avait connue. Donc, si on est un vrai lecteur de la Bible, on doit se poser la question, pourquoi on dit deux fois vierge et aucun homme ne l'a connue ? On pourrait dire vierge et puis ça suffit. Ou bien aucun homme ne l'a connue et puis ça suffit. Pourquoi une répétition ? La Bible ne répète jamais pour rien. Et tous les commentateurs, et c'est là où les commentaires sont très intéressants, disent « Elle était vierge de corps, mais vierge de cœur. » Elle était d'une pureté absolue. Et donc, elle est deux fois vierge. Donc, elle est parfaitement prête, elle est parfaitement préparée, sachant que Isaac, c'est le fils de la promesse. Donc, il fallait quelqu'un de absolument, d'une pureté absolue. Et donc, elle est bien cette personne-là. Et ensuite, elle s'approche. Elle a sa cruche sur l'épaule, elle s'approche, elle descendit à la source, elle emplit sa cruche et remonta. Alors là, c'est pareil. On ne dit pas qu'elle verse, elle pose, elle va chercher l'eau avec sa cruche. On dit elle emplit sa cruche. Même en français. Bon, l'hébreu et le grec sont encore plus clairs, mais même en français, on peut le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle remplit sa cruche? Eh bien, il y a des commentateurs, notamment chez les rabbins, qui disent l'eau est montée directement dans sa cruche. Et c'est en voyant ça que le serviteur se dit « Ouah, celle-là, elle n'est pas comme les autres. » Parce que l'eau monte toute seule, comme si sa pureté, sa grandeur, sa beauté faisaient une sorte de mini-miracle où l'eau monte directement dans la cruche. Et à ce moment-là, le serviteur va vers elle, parce qu'il aurait pu courir vers une autre. Parce que c'est le texte qui nous dit que c'est de sa parenté, mais le serviteur, il ne le sait pas encore.
Alors oui, parce qu'elle ne lui a pas dit encore ce qu'il avait demandé à Dieu qu'elle lui dise.
Non, pour le moment, le texte nous dit qui elle est.
Elle était très belle, elle était très belle. Ça voilà. Peut suffire pour attirer un homme, non?
C'est pas sûr, parce qu'il y en a peut-être d'autres aussi des très belles. Donc le texte nous raconte que c'est bien elle, mais le serviteur ne le sait pas encore. Par contre, il observe. Et c'est très important, celui qui veut lire la Bible avec exactitude et précision, il faut qu'il regarde précisément chaque mot. Il voit qu'il se passe quelque chose avec cette cruche. Et il court vers elle. Et il dit « Donne-moi à boire ».
Alors, elle lui répond et elle lui dit donc ce qu'il attendait. Et pendant qu'elle remplit sa cruche et qu'elle donne à boire à ses chameaux, l'homme la considérait en silence, se demandant si le Seigneur l'avait ou non menée au but.
Voilà, donc il y a encore un doute, vous voyez ? Il y a encore un doute. Il est en train de boire et il y a encore un doute. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas fini de dire « Bois et je ferai boire aussi tes chameaux ». Et ça, c'était essentiel. Pourquoi ? Parce que si elle est de la maison d'Abraham, elle est dans l'esprit d'Abraham. Et qu'est-ce que c'est l'esprit d'Abraham? C'est la générosité. Et comment on le sait? Parce qu'il a reçu les trois anges au chapitre 18. Donc voyez tous les rapports qu'on fait.
C'est vrai qu'on se dit que pour une très belle femme, elle n'est pas bégueule, si je peux me permettre.
Voilà.
Elle est plutôt généreuse.
Elle a
un cœur pur.
Et vous savez que ce que disent les commentateurs, vous savez combien il y avait de chameaux? Il y en avait 10. Okay. Et vous savez combien il a fallu doter d'eau? 500 litres.
Elle a 500 litres par chameau ou...
500 litres en total.
Ah oui.
Elle a rempli l'abreuvoir de 500 litres. Donc, si ce n'est pas de la générosité...
Et il l'a laissé faire, soit dit en passant.
Et il l'a laissé faire. voilà. Non, mais parce que ça fait partie de, oui. Voilà, de la Alors, générosité qu'elle propose.
Peut-être à ce stade de la lecture, faut-il expliquer en fait quel est le propos aussi de... l'intérêt de creuser comme ça un texte. Allez, juste une question générale avant de poser la question la plus particulière. Quel intérêt y a-t-il comme ça de s'habituer à lire ces textes, de les relire et de voir ces détails et de s'interroger c'est quoi? Tout simplement, ça aide à rentrer dans l'histoire?
Alors
ou c'est
d'abord,
plus
ça aide
ça
à rentrer dans le texte. Ensuite, ça aide à voir le dessein de Dieu. Parce que Dieu a un dessein, parce que c'est la parole divine. Attention, ce n'est pas une parole humaine, ne nous trompons pas. C'est une parole divino-humaine, on dirait. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ont écrit, mais dans l'inspiration divine. Et Dieu se révèle. Donc c'est simplement pour voir comment Dieu agit. Mais c'est fondamental. Si je lis la Bible comme le journal, ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, je la ferme tout de suite. Je lis la Bible parce que Dieu se révèle à moi à travers la Bible. Mais c'est fondamental. Et s'il se révèle à moi, chaque détail compte. Dieu ne parle pas dans le vide, j'ai envie de dire. Et chaque mot compte. Et donc il se révèle en montrant le signe qu'il fait à ce serviteur. Et ce signe peut nous servir à nous dans notre vie. Comment j'observe les choses? Si ça sert dans ma vie, ben la Bible, elle est très importante.
Je peux voire même avoir l'espérance de rencontrer une épouse.
Absolument.
Et que Dieu s'en mêle.
Absolument. Mais j'espère que Dieu s'en mêle quand je rencontre une épouse. Je l'espère.
Alors si on continue, donc, ce serviteur s'adresse donc à cette femme qui est donc Rebecca. De qui es-tu la fille? Apprends-le-moi, je te prie. Y a-t-il de la place chez ton père pour que nous passions la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, la fille de Milka, que Milka a enfantée à Nahor. Et elle continua, il y a chez nous de la paille et du fourrage en quantité de la place pour gîter. Donc il découvre qu'elle est de la parenté d'Abraham.
Voilà, à ce moment-là, il sait.
Stupéfaction.
Voilà. Il sait, il dit, bon, bah, le Seigneur m'a vraiment conduit au but. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne dit pas, le Seigneur m'a conduit au but tout de suite. Alors l'homme se prosterne et adore le Seigneur. Donc il ne se prosterne pas devant la femme elle n'a pas à être adorée. Il se prosterne devant Dieu qui fait que tout ce qui se... Il reconnaît dans tout cet événement la main divine. Dieu a tout guidé, Dieu guide les événements. Et je pense que c'est ça qui est très important dans la Bible. Il nous faut comprendre à travers la Bible que Dieu guide tous les événements des personnages de la Bible et les nôtres et nos événements. Et si on apprend ça, la Bible va nous passionner, ça je peux vous garantir.
Alors là, dans ce passage que l'on lit à propos de Rebecca, aussi ce que vous voulez souligner, puisque c'est une série de conférences donc, sur les femmes dans la Bible, et que vous inaugurez quelque part cette série en nous parlant de ces femmes rencontrées au bord d'un puits, c'est qu'aussi le récit dit quelque chose de l'importance des protagonistes, et là en l'occurrence de l'importance de Rebecca, dites-vous. Mmh. Alors c'est-à-dire ?
Rebecca, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que c'est la deuxième matriarche. Donc nous avons Abraham et Sarah.
Donc père des croyants, comme on dit.
Le père des croyants. Isaac, le fils d'Abraham, et Rebecca. Et ensuite, nous avons Rachel et Jacob, et puis aussi avec Léa. Bon, c'est un peu plus compliqué pour le troisième groupe. Et après, on dira toujours Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Et alors, en général, on cite Abraham, Isaac et Jacob, on ne cite pas les matriarches.
Alors, en général,
matriarche, ça veut dire quand même quelque chose.
Oui, matriarche, oui, les matriarches, c'est les épouses de ces trois. Oui. Donc Abraham, quand on cite Abraham, Isaac, Jacob, toujours en arrière-fond, pour quelqu'un qui connaît la Bible, c'est Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Toujours. Hein, donc on a toujours, c'est l'arrière-fond pour un bibliste, c'est obligatoire.
Et puis c'était une femme, la suite de l'histoire, si vous nous le racontez peut-être brièvement, c'est une femme quand même qui avait un sacré tempérament. Non
ah, c'est une femme non seulement d'un sacré tempérament, mais grâce à Rebecca, l'histoire divine a pu s'accomplir. Parce que Dieu, il dépend aussi des hommes pour que son dessein d'amour sur les hommes s'accomplisse.
Alors pourquoi ? Redites-nous.
Eh bien simplement parce que c'est grâce à elle que Jacob a reçu ce qu'on appelle, excusez-moi ce mot, je vais l'expliquer, la primogéniture. C'est-à-dire qu'il a reçu la grâce de la promesse depuis son père Isaac, alors que Ésaü aurait pu l'obtenir à cause de la faiblesse d'Isaac. Isaac avait un faible pour Ésaü, mais Rebecca savait de science divine, parce qu'elle était prophétesse, elle savait de science divine que la promesse devait reposer sur Jacob et non pas sur
Ésaü. Et pourtant, c'était le cadet.
Et pourtant, c'était le deuxième. Enfin, ils sont jumeaux, mais c'était le cadet.
Alors que normalement, c'est l'aîné en général qui a la primeur.
Ce qui montre aussi, très important, et ça, c'est très important pour nos vies aussi...
Que Dieu passe par les femmes.
C'est que, non seulement Dieu passe par les femmes, mais qu'il n'y a pas une destinée obligatoire. Ce n'est pas parce que je suis l'aîné, en tout cas dans cette histoire, que je vais obligatoirement recevoir la promesse, être le premier qui reçoit la promesse. Pourquoi ? Parce que si je ne suis pas digne, la promesse, elle se déplace sur mon frère. Et comme Isaü n'était pas digne et que Rebecca l'avait parfaitement vu, eh bien, elle a fait tourner tout pour que Jacob reçoive cette primogéniture.
Et ça arrive souvent que ce soit les cadets dans les Écritures qui soient favorisés. Alors juste, si on s'en tient à ce récit, pour finir, à quoi le voit-on que Rebecca, en fait, a une telle importance dans ce récit qu'on a parcouru avec vous ?
Alors, le récit extraordinaire, c'est que, généralement, vous savez, dans la Bible et dans les époques anciennes, c'est les parents qui décident de marier les enfants, puis les enfants, ils n'ont rien à dire. Et plus loin dans le récit, le père... de Rebecca lui dit « Mais alors, est-ce que tu veux partir avec cet homme ?» Il lui donne le choix. Et elle dit « Oui, je veux partir. » Donc, elle a compris, elle aussi, que c'est exactement ça qu'il faut qu'elle fasse, qu'elle quitte ce pays, qu'elle aille dans Terre Promise et qu'elle épouse Isaac. Elle a parfaitement compris. Et elle dit « Oui ». Et d'ailleurs, c'est moi qui décide, parce que le père dit au serviteur, un peu plus loin dans le récit, « Tu vas rester quelques jours, etc. Et » Et le serviteur dit « Non, moi, je voudrais rentrer tout de suite. » Et les parents disent, mais qu'est-ce que va dire Rebecca ? Et Rebecca, elle dit, je veux partir tout de suite avec le serviteur. Donc, elle se positionne, elle est droite, excusez-moi le terme, elle est dans ses bottes, quoi. Vous voyez, elle sait ce qu'elle veut. Et elle sait que c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est extraordinaire, quoi.
En voilà une femme dans la Bible, en tout cas, qui a de la place. Et donc, à parcourir ce passage avec vous, on comprend mieux. C'est donc un serviteur qui est présent et non le futur époux. Donc, ça lui donne aussi déjà plus de place. Je crois que vous citiez aussi le fait qu'elle s'active beaucoup. Hein.
Ouais.
Vite, elle vida sa cruche dans l'eau, courut encore au puits pour puiser et puisa pour tous les chameaux, etc. Bref, c'est une femme d'action.
Ouais.
Elle a un fort tempérament et en plus, elle entend l'appel de Dieu. et elle part et elle laisse les siens. On va faire une deuxième pause musicale et après vous allez nous aider à découvrir une autre femme dans la Bible. En l'occurrence, c'est Rachel. C'est aussi une histoire de puits, cette fois qui concerne Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, oui. On parlera donc de Jacob. Je rappelle le titre de votre livre, Sandrine Canary. Rencontre, le titre de votre livre, ça n'est pas Sandrine Canary, ça c'est vous. Rencontre de Rebecca au puits, paru aux éditions d'Isser dans la collection La Bible et ses traditions.
Emmanuel Pella.
Les femmes dans la Bible, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme guide Sandrine Canary, bibliste orthodoxe, enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, donc à Paris, qui était de passage donc à Toulouse, à l'occasion d'une conférence qu'elle donnait la semaine dernière dans le cadre des conférences bibliques Les femmes dans la Bible. C'est donc une série de conférences données par la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, et on en fait une série d'émissions, et vous inaugurez le bal. Alors, on va continuer à se promener dans les Écritures avec vous. Ça peut nous donner envie, à l'occasion des prochains congés, peut-être d'oser ouvrir notre Bible. Deuxième récit, c'est une histoire de puits à nouveau. Cette fois, les protagonistes ne sont pas les mêmes. C'est Genèse 29, 1, 20. En tout cas, on commence par cette partie-là. Racontez-nous de quelle histoire il s'agit.
Alors, nous sommes donc dans la troisième génération, Abraham, Isaac, Jacob. Donc, Jacob est le fils d'Isaac, donc le fils que Rebecca, dont nous venons de parler, a mis au monde avec Ésaü, puisqu'ils sont jumeaux. Hein. Jacob et Ésaü sont jumeaux. Mais on parle de Jacob, d'abord, parce que c'est lui le protagoniste de l'histoire. C'est lui qui est dépositaire de la promesse qui est passée de Abraham à Isaac et de Isaac à Jacob, sachant qu'il est en plus le père des 12 tribus.
D'accord.
Et les 12 tribus vont former le peuple d'Israël.
Il est héritier de la promesse. Vous disiez, en fait, sa mère l'avait su par science, c'est-à-dire...
Par prophétie.
Prophétie.
Oui, Rebecca savait par prophétie, aussi en voyant le comportement de son fils, bien évidemment, que c'était lui qui devait recevoir la promesse. Voilà, parce que c'était lui qui était vraiment fidèle à l'étude de la Torah, aux prières. Enfin, il y avait une fidélité à Dieu qu'elle n'avait pas remarquée de la même manière chez son fils Ésaü.
Alors, ce Jacob, il se cherche une femme, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, donc Jacob, il se met en marche. D'ailleurs, c'est ses parents qui lui proposent, qui lui disent « va, voilà, va dans la famille, dans cette famille, toujours la même. »
Donc, il retourne au pays.
Voilà,
oui.
Va dans cette famille et trouve-toi une épouse. Voilà.
Alors Jacob se mit en marche et alla au pays des fils de l'Orient. Voilà. Et voici qu'il vit un puits dans la campagne, près duquel étaient couchés trois troupeaux de petits bétail. C'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, mais la pierre qui en refermait l'ouverture était grande. Quand tous les troupeaux étaient rassemblés, là on roulait la pierre sur la bouche du puits, on abreuvait le bétail, puis on remettait la pierre en place sur la bouche du puits. Alors ça commence par un détail, mais qui n'est pas sans importance.
C'est un détail qui est capital, qui est capital. D'abord, bon, on est au puits. Paraît... D'abord, il va chercher au puits. Alors, les rabbins disent que Jacob avait réfléchi. Il disait, mon père a trouvé une épouse près du puits. Et ben moi, je vais faire pareil. Je vais aller au bord du puits. Je vais trouver une épouse.
De là à dire que c'est le même puits, il n'y a qu'un pas. Mais bon,
Anne, c'est pratiquement oui. On peut dire que c'est le même puits, quoi. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc il s'était fait cette réflexion, d'un air de dire, si ça a bien marché pour mon père, ça va bien marcher pour moi. Bon. Et ensuite. Mais la scène est très différente. Là, ce n'est pas des femmes qui viendraient puiser au puits, ce sont des troupeaux qui sont là avec des sous-entendus des bergers. Bon. Or, on ne dit pas qu'il y a des bergers, hein, mais en même temps, on sait qu'il y a des bergers dans le sens où Jacob... Ah si, on nous dit au verset plus loin, Jacob demanda aux bergers. Donc voilà, donc il y a bien des bergers. Mais ce qui est très important dans cette scène qu'on voit avec ces trois troupeaux, c'est que ces bergers sont là, près du puits, et ils attendent. Et ils attendent quoi ? C'est fondamental, ça, de se dire, mais pourquoi ils attendent ? Les bergers, soit ils abreuvent leurs troupeaux, soit ils sont au pâturage.
Et ils sont peut-être en avance avant qu'on roule la pierre pour abreuver les bêtes.
Voilà,
non
voilà, vous avez bien compris, vous êtes un bon élève. Donc, exactement, donc ils attendent en fait un quatrième troupeau, donc un quatrième berger, parce que la pierre est tellement lourde qu'il faut être quatre pour la soulever. Donc ils attendent. Bon. Et quand Jacob les interpelle...
Alors connaissez-vous Laban, fils de Nahor ? Donc voilà. En fait c'est son parent. Hein.
Voilà, c'est ça.
Nous le connaissons, répondent-ils. Il leur demanda, va-t-il bien ? Ils répondirent, il va bien. Et voici justement sa fille Rachel qui vient avec le troupeau. Voilà. La femme entre en scène.
Voilà, donc la femme entre en scène, mais ce sont les bergers qui préviennent Jacob. Donc Jacob est prévenu, mais elle ne sait pas. C'est très important, ça, de se mettre bien en tête comment ça se passe dans la tête de chacun de ces personnages.
Pourquoi c'est important, là, en l'occurrence ?
Ben parce que quand Rachel va rencontrer Jacob, elle ne sait pas qui il est, alors que lui sait qu'il est bien de cette famille et que donc ça va être elle. Quoi.
Donc c'est presque l'inverse du précédent récit.
C'est l'inverse du précédent récit.
En tout cas, le quatrième troupeau, c'est eux.
Alors, est-ce que le quatrième troupeau, c'est eux, en général ?
Conduit par Rachel, non ?
Ben oui et non. Oui et
on
non,
sait pas.
Parce que normalement, c'est un troupeau de bergers, parce que c'est des hommes qui déplacent la pierre, c'est pas une femme. Et vous avez déjà vu une femme qui amène un troupeau ? C'est la seule fois dans la Bible. Et donc là, c'est fondamental, parce que au moment où elle arrive, elle est présentée comme quelqu'un qui est guide d'un troupeau, qui est le troupeau de son père. Et donc, elle est présentée comme une bergère. C'est la seule fois dans toute la Bible qu'on dit qu'une femme est bergère. Mais vous imaginez le sens que ça peut avoir ?
Non, alors dites-moi.
Mais être berger...
Professeur Sandrine Kennery.
Mais être berger, c'est énorme. Si vous êtes capable de conduire un troupeau près du puits...
Vous n'avez plus besoin de mari, c'est ça ?
Non, c'est pas ça. C'est que vous êtes capable de conduire une famille, de conduire une tribu, de conduire un peuple. C'est exactement le même cas que Moïse, dont on pourra éventuellement parler.
Alors si on avance, Jacob dit, il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rentrer le bétail, abreuver les bêtes et retourner au pâturage, mais ils répondirent, nous ne pouvons pas faire avant que soient rassemblés tous les troupeaux. En bref, en tout cas, c'est un peu long, donc j'ai courte. En fait, Jacob pousse à lui seul, c'est ça la pierre.
Alors c'est pas ça, c'est que Jacob reproche aux bergers de ne rien faire, mais ils attendent le quatrième. Et lui, à partir du moment où il voit qu'ils sont inertes, il conversait encore avec eux lorsque Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et quand il la voit, dès que Jacob la voit, qu'est-ce qu'il fait ? Avec un seul bras, il soulève la pierre tout seul. Et tous les commentateurs disent, c'est la force que lui a donnée cette vision de Rachel, qui lui a donné une force qui est surhumaine, qui fait que d'un seul doigt, d'un seul main, il ouvre le puits pour abreuver les troupeaux de Rachel, pas pour abreuver les troupeaux des bergers.
Alors la première chose qu'on peut lire, c'est qu'en tout cas, bon, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, mais tout le monde n'est pas du tout familier de ce monde, c'est que Jacob tombe éperdument amoureux de Rachel.
Bah, bien sûr, mais au premier instant.
C'est le coup de foudre, comme on dit là.
C'est le coup de foudre, mais...
La potion magique.
Oui et non, parce que nous, on va avoir tendance de le voir d'une manière humaine. Vous savez, le coup de foudre humain qui parfois d'ailleurs ne dure pas. Là, c'est un coup de foudre qui est divin. C'est là où il faut transposer nos catégorie humaine, on est dans une parole divine.
Donc Jacob donna un baiser à Rachel, puis éclata en sanglots.
Voilà, et pourquoi il pleure ? Voilà. Donc, à coup de foudre, vous pleurez pas. Donc ça montre bien qu'on est dans un autre registre. Donc c'est un vrai coup de foudre, mais un coup de foudre qui a une caractéristique divine qui est très puissante.
C'est-à-dire qu'il y voit, en fait, il voit la main de Dieu dans cette rencontre, et
ah
c'est ça qui le bouleverse ?
Il est bouleversé. Alors, certains commentateurs disent, parce qu'il n'a rien à lui offrir. Le serviteur, et il pense, le serviteur de ma mère qui était chercher Rebecca auprès du puits.
Ah oui, on avait oublié de le dire, mais il est venu avec...
Avec des cadeaux, des boucles d'oreilles.
Et il couvre Rebecca immédiatement de boucles d'oreilles, de bijoux.
Voilà. Alors que là, il n'a rien. Et donc, il a qu'une chose à lui offrir, c'est cette force qui l'habite, de cet amour qui monte en lui, qui est d'abreuver ses troupeaux de manière instantanée, sans avoir besoin d'attendre.
Alors Sandrine Canéry, tout l'intérêt de parcourir comme ça ces passages bibliques, non seulement c'est d'être initié donc à une lecture biblique, mais c'est aussi pour ces récits. Vous nous dites qu'à chaque fois, la manière dont le récit est proposé dit quelque chose des personnages. Alors là, même question que la fois précédente avec Isaac et surtout pour Rebecca. Là, on a l'impression que la star, si je puis me permettre, ça n'est pas Rachel cette fois, c'est Jacob.
Oui.
Qu'est-ce que ce récit dit de Jacob et de son rôle et de ce qu'il est ?
Mmh. Alors, ce récit...
C'est un lutteur, c'est ça ?
Oui,
ça
voilà, exactement. C'est un lutteur. Et il va toute sa vie, il va lutter, combattre pour justement être digne de cette promesse qu'il a reçue, de ce patrimoine spirituel qui est vraiment le patrimoine que Dieu a donné à Abraham, Isaac, et puis à lui, Jacob, et à cette fidélité. Et toute sa vie, il va se battre pour être fidèle à ça. Mais c'est extraordinaire.
Alors, parce que l'image qu'on peut avoir de Jacob, c'est la fameuse lutte avec l'ange.
Oui,
hein, c'est,
bah,
celui
c'est pareil.
C'est celui qui se battra avec
voilà.
Dieu, contre
voilà.
Dieu, on ne sait pas trop.
Voilà.
C'est souvent une figure du combat spirituel.
Absolument, absolument. Et il en sort victorieux. Il va être un peu blessé à la hanche, mais il en sort victorieux. Tu as été fort, et à cause de Sarah, comme tu as été fort, tu te seras appelé Israël. Israël qui est le nom finalement du peuple tout entier. Donc, il va porter le nom du peuple tout entier parce qu'il va mettre au monde, avec ses épouses, ce peuple, ses 12 tribus et le peuple qui va en découler. Mais c'est extraordinaire.
Sandrine Canéry, dans les 2-3 minutes qui nous restent, puisque vous avez eu la gentillesse d'accepter de nous servir de guide en introduction de cette série de conférences bibliques, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Parce qu'on n'a pas toujours des gens comme vous pour... Alors évidemment, il faut aller suivre les conférences bibliques de l'Institut catholique de Toulouse, hein, on donnera tous les coordonnées. Mais si chacun a envie de se lancer, à prendre sa Bible, vous avez des petits conseils comme ça pour débutants, pour essayer de...
Alors, il faut la lire avec attention et ne jamais laisser un seul détail. Et puis, bien sûr, on a besoin d'aide. Donc, soit s'inscrire au cours de la Bible de l'Institut catholique de Toulouse, soit trouver d'autres groupes de Bible. Et on a besoin d'aide de quelqu'un qui connaît déjà un peu et qui est entré dans ces détails pour nous faire ressortir l'importance de ces détails qui sont toujours de la main de Dieu. Et surtout, essayer de montrer en quoi ce texte, ça peut s'appliquer à ma vie. Parce que si ça n'applique pas à ma vie, si je ne suis pas concernée, ben, je ne vais pas m'intéresser à ce texte. C'est parce que je suis concernée directement. Et chacun des personnages peut être quelque chose en moi. Par exemple, Jacob, comment moi je peux être un bon combattant pour combattre pour le Christ, par exemple. Voilà. Voyez, ou Rachel, comment je peux être une bonne bergère, voilà, pleine de joie et dégager de moi quelque chose qui fait que le fils de la promesse va tomber amoureux de moi. Attendez, mais c'est extraordinaire. Voilà, voyez.
Vous disiez au début de l'émission que la première fois que vous avez ouvert la Bible, on vous avait incité à lire le livre d'Isaïe, c'était juste avant Noël.
Oui.
Maintenant, des années après, quand vous le lisez, c'est un délice. Enfin, si je peux me permettre une question peut-être un peu indiscrète, quand vous le relisez là comme ça avant Noël, qu'est-ce que ça vous inspire, bah, maintenant que vous arrivez à mieux le comprendre ?
Il faut savoir que c'est pas Isaïe que je conseillerais un premier lecteur. Voilà, je conseillerais plutôt la Genèse.
Mais ma question, c'était pour vous, puisque.
Mais pour moi, maintenant, il y a des passages, c'est un délice, mais tout Isaïe reste difficile. Voilà, le prophète Isaïe reste difficile. Il faut beaucoup de temps pour entrer dans la prophétie. Les prophètes restent difficiles quand même. Hein. Donc, il y a tout un contexte. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Au contraire, plus c'est difficile, plus il faut s'armer de courage pour entrer et demander surtout la lumière du Saint-Esprit aussi. Parce que dans la prière, on reçoit beaucoup d'explications.
Eh ben, merci beaucoup, Sandrine Caneri. Donc, ces conférences bibliques, les femmes dans la Bible, donc, elles sont données par la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse tout au long de l'année. On peut retrouver le programme sur ict-toulouse. Voilà, il suffit de taper Institut catholique de Toulouse conférences bibliques, vous trouverez sur Internet. Et votre conférence est à retrouver donc, sur le site du diocèse de Toulouse. On tape diocèse de Toulouse, conférence biblique, Sandrine Caneri, C-A-N-E-R-I. Et on retrouvera cette conférence. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre pour ceux qui voudraient vous suivre encore un petit peu dans ces parcours bibliques. Rencontre de Rebecca Aupuy. C'est paru aux éditions du Cerf, collection La Bible et ses traditions. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.